Christian Saint-Etienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Votre dernier livre, c'est Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. C'est aux éditions Odile Jacob. En face de vous, Stéphane Van Nuffel, fondateur d'SVH Conseil. Et à côté, Gaël Sliman, le président et cofondateur d'Odoxa.
Bonjour Laure.
Budget, est-ce qu'il faut continuer à discuter? Est-ce que la méthode Bayrou est la bonne? Christian Saint-Etienne, il semble que on prenne du temps comme si on en avait un petit peu devant nous.
Oui, en fait, on prend du temps comme depuis 10 ans. Et à chaque fois, la situation empire. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est la même situation en France et aux États-Unis. C'est-à-dire que les deux pays ont des niveaux d'endettement comparables. Évidemment, les puissances ne sont pas comparables. Mais les États-Unis s'inquiètent d'un phénomène qui nous guette. C'est l'augmentation très forte des taux d'intérêt, de telle sorte que les paiements d'intérêt en nominal, en argent payé aux détenteurs de la dette, vont doubler en 3 ans en France et vont fortement augmenter également aux États-Unis. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant parce que si on doit simultanément réduire la dépense en augmentant massivement les dépenses d'intérêt, ça veut dire que sur les dépenses hors paiement d'intérêt, la baisse va devoir être très significative. Donc sur l'éducation, quand on sait que au même moment, on doit dépenser plus pour former les gens, et pour faire la recherche, pour l'armée, ça veut dire qu'il va falloir trouver des économies, notamment dans le budget dont on sait qu'il pose le plus problème. Et je termine par là, sur les 57 points de dépenses publiques en France, qui est le record du monde, il y a 33,5 points de protection sociale, c'est-à-dire à peu près 60% de la dépense publique, c'est de la protection sociale. Et quand on compare la France aux 19 autres pays de la zone euro, puisqu'on a la même monnaie, parce que souvent on compare la France soit à la moyenne de la zone euro, soit à la moyenne de l'Union européenne, mais ça n'a pas de sens, puisque comme on est très au-dessus, on fait monter la moyenne. Donc on est en compétition avec les pays, donc les 19 autres de la zone euro.
Il faut nous sortir de la moyenne pour pouvoir être juste.
Il faut sortir de la moyenne pour comprendre la nature du problème.
Moyenne.
Et on est à 9 points de PIB de plus que les autres pays de la zone euro. Et sur les 9 points, il y a 6,5 points sur la protection sociale. On voit pas qu'en Allemagne, les gens meurent dans les rues, qu'ils soient pas soignés, qu'ils aient pas d'école. Donc, la question, c'est vraiment à la fois éliminer toutes les causes de déficit qu'on connaît bien. Par exemple, sur les retraites versées hors de France, il y a eu des expérimentations faites par l'ambassade de France en Algérie qui a convoqué les ex-militaires qui reçoivent des prestations. 30% ne sont pas venus et dans ceux qui sont venus, il y avait de toute évidence des gens qui n'avaient pas fait la guerre. Donc, le nombre d'exemples de ce type est multiplié.
Là, c'est la fraude, quoi.
Il y a vraiment de la fraude. Qui est peut-être sur la protection sociale d'une quinzaine de milliards, mais si on éliminait ça, c'est déjà une première marche. Et puis, on sait qu'il va falloir travailler plus longtemps. Enfin, toutes les réformes qu'on évoque et qu'on n'arrive pas à faire.
Mais justement, Gaël Sliman, vous qui sondez l'opinion, on sait, Christian Saint-Etienne, on n'a pas besoin d'un énième rapport. Je pense que c'est bon, c'est clair. On sait que le sujet, c'est les dépenses sociales. Est-ce que les Français en ont conscience? François Bayrou dit, il faut du temps, il faut que ça s'imprègne dans la tête des Français. Ils n'ont toujours pas compris?
Alors, compris, oui. Accepter, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a notre baromètre économique avec AJP, Challenge et BFM, dont on va parler tout à l'heure, qu'on réalise tous les mois, et régulièrement, on pose des questions sur ces sujets. On a un autre baromètre sur votre antenne avec BFM et Capital sur l'épargne. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on pose la question, oui, bien sûr, les déficits, réduire la dette et les déficits, c'est capital, nous disent les Français, pour les 3/4 d'entre eux, et il faut faire des efforts. Le seul problème, c'est quand on leur dit quels efforts et qui doit les faire.
Ah, c'est pour le voisin.
C'est toujours pour mon voisin à droite ou mon voisin à gauche, jamais pour soi. Donc c'est très difficile d'accepter les efforts. Il y a quand même une conscience, Christian l'évoquait, qui est que nous disposons d'un système de protection qui est assez inédit, et c'est aussi un asset, un atout, une plus-value pour les Français par rapport aux autres pays du monde. Parce qu'on le présente comme un handicap, on le voit sur les finances publiques, sur la dette, sur les déficits, mais dans la perception des Français, c'est le seul domaine où ils nous disent on est quand même mieux en France qu'ailleurs.
C'est un peu de fierté, quoi.
fierté et réconfort. Et
sur le fait
soulage.
De ne pas payer ni l'hôpital, ni l'école.
Sécurité. Voilà, un élément de sécurité. Et pour finir sur ce sujet, la difficulté, on le sait, hein, ça fait des années, la difficulté pour un politique, c'est que s'il veut mener des réformes qui vont nécessiter en réalité, pour qu'elles soient justes, qu'en gros chacun paye à un moment donné, qu'on sente un sacrifice par rapport à des avantages qu'il a. Je suis convaincu que les Français sont capables d'accepter ça, même si on préfère toujours que ce soit le voisin qui paye. On peut l'accepter, mais il faut une condition, il faut que le Premier ministre ou le chef de gouvernement ou le président de la République qui porte ça bénéficie d'un minimum de crédit.
Oui.
Or, ce à quoi on assiste là, moi pour sonder l'opinion et voir les résultats de notre dernier baromètre politique encore, c'est une catastrophe en termes de popularité, François Bayrou.
Là, même le président.
Alors, le couple exécutif va très mal, le président est très largement rejeté. Il s'est un petit peu refait la cerise, si vous me passez l'expression, sur les sujets internationaux, notamment sur ses prises de position sur Gaza, qui étaient très attendues par les Français. Donc, il a pu marquer des points là-dessus. Mais globalement, il y a quand même 7 Français sur 10 qui n'apprécient pas la politique menée par Emmanuel Macron. Quant à Bayrou, c'est le Premier ministre le plus impopulaire de toute l'histoire de la Ve République.
Donc ça ne peut être qu'un président qui vient d'être élu et correctement élu, c'est à peu près ça. Quoi. Ça se fait dans les 100 jours quand vous avez encore l'état
de grâce. Il y avait deux possibilités, soit un président qui vient d'être élu, donc ça veut dire qu'en gros, on aura du pipeau pendant des mois et il faudra attendre réellement 2027
ça va être très long, hein.
Pour avoir de vraies réformes. C'est tout à fait probable, selon moi. L'autre hypothèse eût été ou serait peut-être, s'il y a de nouveau une dissolution, qu'à l'issue d'une dissolution, Emmanuel Macron fasse ce qu'il n'a pas fait la dernière fois, il a commis à mon avis une erreur stratégique, qui consistait à dire, écoutez, j'ai perdu, alors je m'en vais peut-être pas forcément, mais le gouvernement qui va gouverner sera issu de l'Assemblée, et proposer aux forces politiques un deal qui les oblige en fait à se mettre d'accord à la mode allemande. Ouais. Alors ça peut prendre du temps.
Ouais. Et là, pas très allemand dans la.
Non, mais la culture, hein. Non, mais la situation politique que nous vivons là.
Nous on dit que tout le monde a gagné.
Avec la dissolution. Obligé en fait à ce type de réaction. Bon, ça n'a pas eu lieu.
Et Gaël, il n'aurait pas dû faire ça en 2022 en fait.
Ben voilà, en 2017 déjà.
Ouais, mais même 2017, en 2022, quand il est affaibli, il fallait faire un contrat de gouvernement avec LR.
Ah, après les législatives.
De toute façon, on va pas faire l'histoire parce que c'est cuit, on va passer de longues années.
En tout cas, c'est mal barré, c'est mal barré pour arriver.
Non, pas l'impression.
Ouais, on peut pas attendre 2 ans, là.
Malheureusement, on va pas trop avoir le choix. Alors, tout ce que vous avez dit est très juste, donc je vais juste ajouter un élément, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit les thèmes, même de ce matin entre nous, qu'on a envie de traiter, quand on lit la presse, etc., on a la sensation maintenant que c'est devenu une extrême urgence, que les déficits sont trop importants, Christian le rappelait, là, on peut plus. Et je pense que le discours politique, même si en France, ce sera très compliqué, pour éviter cette sensation de « oui, oui, on va faire des réformes, mais je vais demander à mon voisin », ce serait peut-être que quelqu'un enfin explique aux Français, parce que moi je les vois, et tu parlais d'épargne, Gaël, moi je les vois. Ils n'ont pas de lecture de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pendant un moment donné, c'est logique, je prends l'exemple très très caricatural des confinements successifs, du Covid, etc. Ça a été le « peu importe ». Oui, on envoyait de l'argent, mais c'est normal. Il fallait protéger la population, la soigner.
On est allé un peu trop loin.
Quoi qu'il en coûte. Mais ce qui était logique,
ce que vous appelez le peu importe. Mais l'idée est la même.
Avec le geste, le guichet est ouvert. Un peu bon.
On comprend l'idée. Et ça a été fini un peu comme ça d'ailleurs.
Non, mais ça a été mal expliqué à un moment donné de dire on n'avait pas le choix de faire ça. Ce quoi qu'il en coûte, il a été pris comme allez, on ouvre les vannes, etc. Et depuis ce quoi qu'il en coûte, on a l'impression qu'on a oublié qu'il y a quand même une grande partie des dépenses qu'on traîne encore aujourd'hui qui ne sont pas des dépenses intrinsèques au système français, à notre mauvaise gestion, à tout ce qu'on entend depuis 40 ans, qu'on doit encore absorber ça et que dans l'autre sens, il faudrait y aller par étapes. Voilà. Il y a des gros déficits sur la protection sociale, la sécurité sociale, il y a des gros déficits sur la santé fondamentalement au niveau de nos hôpitaux, etc., etc. Il faudrait prendre des premières étapes, pas dire aux Français tout de suite, il y a tel déficit de moins 4,5, moins 6,5, c'est trop, ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à voir l'ampleur du schéma. Donc je pense qu'un homme politique ou un dirigeant qui arriverait avec un plan comme le ferait n'importe quel chef d'entreprise en disant on se donne 2 ans pour être à moins 2, on se donne 2 ans pour être à zéro, et puis etc. Pas, c'est la panique, il faut payer. Parce que quand vous dites ça aux Français, C'est exactement le même système.
C'est un peu comme le réchauffement climatique.
Non, mais
hein,
c'est
vous
comme
restez
quand couché, on dit à mes
clients, vous achetez des t-shirts chez Chine. Hein.
Voilà.
Parce que vous dites, de toute façon, c'est cuit, quoi.
C'est cuit. Voilà. À partir du moment où c'est cuit, bah, on va dire, on fait quoi? Maintenant que s'il faut y aller, c'est urgent.
Bah, on fait quoi?
On épargne.
On épargne.
Je reviens quand même à la question de l'OAT qui doit être à peu près notre seule boussole si on veut garder la tête froide. Vous croyez à un moment donné à un accident de crédit potentiel sur la France?
Alors. Tout le monde dit, on a une assurance qui est la BCE, qui ne pourra pas laisser un accident de crédit sur la France. Mais la BCE peut attendre que ça fasse très mal à la France. C'est-à-dire qu'elle peut acheter une partie de notre dette, mais tout en laissant monter les taux d'intérêt.
Elle l'a un peu dit, Christine Lagarde, hein, dernièrement. Donc, les pays qui se mettent tout seuls dans le mur, ils se débrouillent. Hein.
Oui, donc ça, c'est un point important. Mais surtout, ce qui est clé, c'est que l'argent que vous versez sous forme d'intérêt sur la dette, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser sur l'éducation, sur la recherche ou sur la défense. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Gaëlle. Les Français considèrent que la protection sociale, c'est un élément de sécurité. Ils ont raison. Et personne dit qu'il faut balayer la protection sociale. Ça n'a pas de sens. Effectivement, c'est un des atouts que nous avons. Le point clé, c'est la question de l'efficacité de la dépense et de la justice dans la dépense. Ce que l'on évoque actuellement, c'est, par exemple, passer à 1 euro payé par les Français par boîte de médicaments. On ne parle pas de renoncer au remboursement des dépenses de santé. Sur la visite chez le médecin, on pourrait dire, ben, vous payez, si c'est 30 euros sur la visite, vous payez 3 euros. Voilà. L'idée, c'est que on revienne à un reste à charge qui, il y a quand même eu beaucoup de travaux là-dessus. Avec l'informatique aujourd'hui, on sait exactement le reste à charge qui est resté par Français et on peut le caper. On peut dire, quand vous aurez sorti 500 euros de reste à charge, pour ceux qui gagnent qui gagnent le SMIC ou en dessous, on vous remboursera le reste à charge au-delà de 500
euros. Donc, peu importe votre besoin, plus d'un montant.
Voilà, si vous gagnez beaucoup d'argent, on vous laisse le reste à charge, quel que soit le montant. Mais si vous avez des revenus très faibles, on vous cape le reste à charge et vous n'aurez plus de reste à charge si vous êtes très malade, ainsi de suite. Voilà, l'idée, c'est de remettre des freins dans le système qui permettent de contrôler sur le RSA. Il faudrait qu'il y ait une visite régulière tous les ans pour vérifier ce que les gens font, comme on le fait à France Travail. Pour vérifier que les gens font des efforts pour se réinsérer. Voilà. Il y a toute une mécanique à réintroduire. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Il y a des petites choses qui ont été faites, mais de toute évidence, c'est pas suffisant.
Gaëlle, il y a un rapport au prix. Hein, au prix des choses, c'est gratuit, donc on n'a pas l'impression que quelqu'un paye. Est-ce qu'il y a ce besoin de refaire comprendre aux Français qu'il y a toujours quelqu'un qui paye quand même à la fin?
Je suis d'accord avec Christian, je pense que des éléments qui permettraient que chacun, avec des rétro-commissions, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous rembourseriez ceux qui étaient très démunis et que finalement auraient dépensé trop en reste à charge, ce serait une bonne solution. Mais on retombe sur le même sujet. Regardez la mécanique complexe, enfin, complexe, c'est pas si complexe, mais...
L'informatique, on le
non,
fait.
Non, mais c'est pas techniquement,
ouais.
C'est dans l'esprit
des gens.
Il faut de la transparence. Pour qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait de la confiance. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut que le gouvernement, tout part de là, il faut que le gouvernement que vous avez au pouvoir inspire cette confiance. Qu'on se dise, ils ne vont pas me rouler dans la farine.
Ouais.
Et ce n'est pas du tout le sentiment qui existe aujourd'hui à l'égard du Premier ministre ou à l'égard du Président de la République. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on a déjà vécu des périodes comparables où vous avez quelqu'un qui arrive au pouvoir. Vous voyez d'ailleurs sur notre morale, notre baromètre à JP Challenge BFM, on a un indice de morale qu'on suit depuis des années.
Ça va, tout le monde est pessimiste,
oui,
8 sur 10.
Mais ce qui est drôle, c'est quand on regarde la courbe sur le temps long, on se rend compte, ah tiens, il y a des pics, mais il y a des pics incroyables à chaque fois. C'est sur le moral économique, hein, je précise.
Oui. Mais les pics, c'est quoi? C'est facile, c'est le Covid, c'est la crise énergétique.
Non, les pics, positif, ce sont les élections présidentielles.
Ah, ça rend optimiste.
Chacune des élections présidentielles provoque un pic, et dans le même temps, quand vous dites aux gens,
grand soir.
Au même moment, oui, c'est un peu ça.
Non, mais
quand vous
ça,
dites
ouais.
aux gens, est-ce que vous pensez que le prochain président, quel qu'il soit, va améliorer? Ah non, non, non. Mais en fait, ils y croient. C'est-à-dire que nous sommes un peuple, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on déteste tant nos gouvernants. C'est parce qu'en fait, on y croit beaucoup plus que dans les autres pays. Ouais. au fond de nous-mêmes.
C'est comme en amour, quoi. Les gens sont déçus.
C'est
plus
exactement ça. C'est du désamour. Et donc,
ça provoque.
Et tout ça pour dire qu'un élément clé pour nous, je ne crois pas du tout, moi, qu'il y aura de grandes réformes possibles d'ici 2027. Je ne le crois pas une seconde.
Oui, mais ça va nous coûter cher.
Eh bien oui, non, mais ça, je suis convaincu. En revanche, tout le reste, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça va nous coûter cher. Il faudrait, c'est impératif, il faut absolument. Mais ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver politiquement.
Non, mais donc, ça commence. C'est ce que je disais, étape par étape, des petites choses.
Non, mais
des, alors, mais c'est quoi des petites choses sur les taxis micros. On n'a pas réussi.
Non, mais ça
parler du comportement des gens, les gens vont à l'hôpital et disent bon je voisin, dois un taxi, mais et on ne peut pas réformer. Ouais.
Tout à fait. Et pourtant, c'est une mesure populaire hein, sur les taxis.
Alors les taxis, c'est un bon sujet. Il se trouve que je l'ai abordé avec des chauffeurs de taxi, avec des chauffeurs de VTC. Quand vous prenez un taxi pour aller à l'hôpital, il y a un bon de transport. Quand vous arrivez, il faudrait exiger que le malade demande le reçu au taxi parce qu'il y a des taxis qui me l'ont dit, hein, ils savent entre eux qu'il y a des taxis qui laissent tourner le compteur après avoir déposé le malade à l'hôpital.
C'est le grand classique.
Oui, ben c'est le grand classique. Donc il faudrait demander, exiger du patient qu'il demande le reçu. J'irai même plus loin, ce qui a été même proposé par des chauffeurs de taxi, que le patient paye voilà. Et il est remboursé sur le bon de transport, enfin sur le bon que lui a remis le taxi. Donc, si vous faites ça, vous allez voir que ces dépenses baissent de 20 ou 30%. Donc, l'idée, c'est que les gens arrêtent de penser que c'est gratuit.
Et c'est pas gratuit parce que c'est leur argent. Non, mais ce que dit Christian est très juste parce que c'est le principe de la consigne. Et évidemment, le principe de la sécurité. Alors, moi, je suis quelqu'un du digital, donc c'est très dur pour moi parce que c'est une espèce de paradoxe intellectuel de dire la digitalisation, par exemple, des frais de santé, la fameuse carte vitale, a été une avancée en termes de gestion des data de santé, etc. Rappelez-vous, hein.
Mais ça fait une carte de crédit gratos.
C'est une carte de crédit gratos. Mais alors, gratos dans l'esprit des gens. Parce qu'en fait, cette carte de crédit, c'est une carte de crédit commune à nous tous. Et en fait, ça a été pour moi le plus gros symbole de la mécompréhension d'une génération entière de Français qui est née après nous, qui ont compris que l'État, c'était une espèce de pourvoyeur de fonds, et ils n'ont pas compris que l'État, en fait, c'était nous. Donc en fait, tout ça pourrait passer par des consignes. Peut-être pas avancer la note du taxi, parce que c'est des grosses notes.
La suppression du tiers payant est une catastrophe.
Bien sa vie, pour quelqu'un qui a besoin d'aller à l'hôpital, de prendre des taxis, etc., 50 euros à chaque fois, ce serait compliqué. Mais je suis d'accord avec Christian, 1 euro, 2 euros, qu'on lui rendrait plus tard, juste là, c'est toute petite chose. Et ça, c'est pas très compliqué à mettre. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de les confréries des VTC contre les confréries des taxis. Non, là, on ne pointe du doigt personne, parce que là, les taxis, je peux comprendre qu'ils hurlent, parce que on le sait, les fraudes sur les taxis, c'est 7 à 8%. Ces fameux trucs qui tournent tout seuls. La grande majorité des autres, ils font bien leur job.
Comme dans tous les métiers, il y a
toujours 10% de gens qui trichent. Voilà. Et on ne peut pas raisonner que sur la triche.
Gaël, il nous reste 2 minutes avant la pause. Ce que je comprends quand même de votre baromètre, vous l'avez fait à quel moment ? C'était
la semaine dernière.
La semaine dernière, on comprend quand même que le politique a quand même un rôle. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose. Moi qui parfois me dis ça sert à rien, ne leur parlons même pas. En fait, si, c'est-à-dire que il peut à un moment donné prendre des décisions, changer le cours des choses et les Français les écoutent.
Oui, les Français les écoutent tout en disant qu'ils ne les écoutent plus, mais en fait ils les écoutent vraiment. Et là, alors malheureusement c'est pour le pire qu'ils ont changé les choses. C'est le thème, l'angle qu'on s'est choisi puisqu'on arrive au 1 an de la dissolution. Le bilan qu'en tirent les Français, vous l'avez rappelé en un mot il y a un instant, Laure, c'est que pour les 3/4 d'entre eux, ça a été une catastrophe économique pour notre pays. Vos invités sur vos plateaux vous le disent tous les jours, mais ce sont des chefs d'entreprise ou des acteurs de l'économie. Madame Michu, Monsieur Durand s'en est parfaitement rendu compte. Et quand on regarde le détail, on a balayé tout ce que
c'est
nos concitoyens...
C'est que les 3/4 aient compris.
Alors, ils l'ont parfaitement compris, ils nous disent. Ça a été une catastrophe, donc conséquence négative sur la situation économique de la France à 75%, la situation des entreprises françaises 71%, la situation de l'emploi à 69%, et les investissements étrangers en France 61% disent conséquence négative. Mais pire, on a une majorité de Français qui pensent que cette dissolution... En termes de conséquences économiques, elle a eu aussi des conséquences économiques négatives pour leur propre situation personnelle. Parce qu'ils ont bien compris tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que cette dissolution, parce que président ou premier ministre impopulaire, c'est pas très grave. On est habitué en France.
On prend les bonnes décisions.
Non mais on est habitué, mais avec une majorité forte à l'Assemblée, bon, ils prennent des décisions qui déplaisent, et puis c'est la vie, ils seront battus aux prochaines élections. Là, ils ne peuvent pas. Parce que il faut bien comprendre,
même pas c'est quand même eux qui ont voté.
Oui, mais ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi les Français.
Ils n'ont pas choisi de faire le merdier, en fait.
Non, ils ont chacun. Non, chacun.
Tu vois, le fou la poule, quand même.
Ouais. Mais non, chacun.
Non, mais c'était dissous. On dissout d'abord, on a voté après.
Ouais. Oui, mais si tu dissous, c'est quand même pour donner justement aux Français le choix de faire les efforts qu'il faut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont explosé complètement le.
Mais non, mais ils ont pas. Mais non, ils n'ont pas choisi de voter à un tiers pour le Rassemblement National, à un tiers pour la gauche qui a des mesures complètement antinomiques, et à un tiers. Il se trouve que chacun a fait en fonction de son choix. Chacun s'est dit, génial, le RN va être au pouvoir. Génial, la majorité présidentielle va être reconduite. Génial, la gauche va être au pouvoir. Patatras, les trois se sont retrouvés en situation d'équilibre.
Ouais. Et donc, bon, fallait pas dissoudre. De toute façon, on trouverait personne. Fallait pas trouver personne pour défendre ça.
C'était une folie. Il fallait partir en ayant perdu. Même.
Et il fallait partir en ayant perdu et en permettant au pays de se reconstruire.
Ça, c'est les princes. Mais c'est pas ce qui s'est passé. On revient dans une minute. Vous bougez pas, les experts. On marque une pause.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.